Morais. Live.
En vacances.
Live. Nous sommes profondément désolés.
Radio X.
Ouais, je vous surprendrai pas en vous disant que c'est assez tranquille sur les routes ce matin. C'est les vacances de la construction. C'est ça. Si vous avez à aller quelque part, rive nord, rive sud, ça se passe très bien, mais vous savez qu'il n'y a pas de raccourci pour sauver du temps. Il y a une façon simple de sauver de l'argent. Combinez vos assurances auto et l'habitation chez Bel Air Direct et vous allez économiser.
Les lundis des millionnaires! Lundi des millionnaires!
Ouais, c'est un chroniqueur hebdomadaire de Morais Live. Éric Gravel, merci d'être là avec nous ce matin.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Est-ce que tu prends des vacances de ton côté et tu nous demandes disponible?
Pas bientôt, pas pour l'instant, parce qu'on on gère l'entreprise avec toute la famille. Fait que là, les enfants ont pris des vacances parce que leurs amis avaient des vacances à construction. Ils ont plusieurs amis qui travaillent dans la construction, justement. Donc, nous autres, on garde le fort présentement. Puis je m'en vais à Québec, par contre, ce soir. Là,
donc, ah oui?
Oui, j'amène ma plus jeune Chute Morancy. Oui. Montmorency, je sais jamais comment c'est.
Chute Montmorency, c'est super beau coin d'ailleurs.
Oui, je vais aller faire visiter ça. J'ai jamais vu ça, donc.
Ça va être super. Puis c'est tranquille à date, comme tu as entendu, là, les routes, là, tout se passe bien. Tu ne devrais pas avoir trop de trafic en venant à Québec.
Oui, c'est tranquille, mais il y a eu beaucoup d'accidents quand même. Oui, comme un des sujets que je t'ai démontré.
Entre autres, tu parlais du décès qui est survenu sur la route 329. Puis là, c'est le ministère des Transports qu'on monte du doigt, Éric.
Ben, j'ai fait la publication ce week-end, puis les gens ils ont dit c'est pas à cause des routes, c'est à cause du comportement des gens. Oui, en grande partie, les gens sont pressés, sont impatients, ils font des gestes.
Mais le téléphone aussi, on en parlait tantôt, là. Beaucoup de monde sur le cellulaire.
Mais il reste une chose, c'est que les routes sont hyper dangereuses pour la plupart au Québec. Moi, j'étais une couple d'années, il y a 3 ans en Italie, puis j'ai fait pas mal, je dirais, la moitié du tour d'Italie. Je n'ai pas fait tout. Naturellement, j'ai eu 14 jours, donc je n'ai pas eu le temps de faire tout le tour, mais j'ai fait beaucoup de routes. Il y avait une chose qui m'a marqué là-bas, c'est qu'il n'y a pas de face-à-face. Pour toutes les routes que j'ai croisées, il n'y a aucune façon. Ils mettent les barricades entre toutes les autoroutes ou les routes qui se croisent. Il y a toujours des barricades entre les deux. Puis, si on prend juste l'autoroute 50, parce qu'il y a eu encore des accidents cet hiver, si on prend le parc des Laurentides, il y a eu combien de décès avant d'avoir justement la séparation des voies pour faire en sorte que justement il n'y ait pas de face-à-face. Fait que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va devoir être fait d'urgence parce qu'on a de la difficulté, à mettre de l'asphalte, de la faire correctement. Fait qu'imagine tous les accidents en plus qu'il y a, les camionneurs, ceux qui ont les faux papiers, comme on dit, tout ça. Il y a beaucoup de choses pour la sécurité des gens qui vont devoir être revues pour le prochain gouvernement, parce que présentement, ça fait juste pas de sens. Il y a beaucoup trop de décès sur nos routes, là, assurément.
T'as raison, puis tu sais, oui, l'état des routes, c'est vraiment pas facile. Des roulières partout, des nids de poules, l'asphalte qui est brisé. Puis je reviens avec ça, mais il y a beaucoup. Moi, ça m'est arrivé dernièrement, j'étais en moto, route secondaire, puis là, j'ai une chance, je l'ai vu de très, très loin, mais le véhicule qui s'en venait en face de moi a dévié de sa route. Il m'en est repris son chemin, mais d'après moi, c'est une histoire de téléphone.
Ah, clairement. Ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de dangers à ce niveau-là. Les gens sont de moins en moins consciencieux, puis il y a beaucoup d'accidents qui sont reliés à ça. Puis je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui sont faites, justement, si les cellulaires sont utilisés. On va voir si. Mes enfants me demandaient justement ce week-end, de dire, il arrive quoi, l'accident qu'il y a eu ce week-end. Tu sais, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de il y a pas nécessairement d'accusation parce qu'ils vont considérer ça comme un accident de véhicule. Ils ne peuvent pas prouver qu'il y a eu une intention de causer la mort. C'était pas ça. Rarement quelqu'un conduit et il y a une intention
criminelle
de le faire. Fait que souvent, il n'y a pas d'accusation, ça va être traité comme un accident. Et oui, il peut avoir eu une faute de conduite, mais ça va rarement plus loin. Là. C'est rare qu'on va entendre qu'il y a eu des accusations ayant causé la mort. Ils ne sont pas capables de prouver qu'il y a eu une intention claire.
À moins qu'il y ait un excès de vitesse ou l'alcool qui est en jeu, par exemple.
Exactement. Ouais. Exactement. Fait que c'est sûr et certain qu'on appelle toujours à prudence durant les vacances de la construction parce qu'il y a beaucoup. Il y a moins de gens sur la route, mais les gens se déplacent plus aussi en même temps. Donc, pour les vacances, puis ça, ça, y en a eu un autre, je pense, c'est hier. Un véhicule avec un camion remorque qui est rentré dans un autre véhicule. Ça semble être ça aussi, un cellulaire au volant, parce que...
Épouvantable.
C'est soit dans le trafic, les gens sont pas attentifs, ils arrivent avec le camion, bang, ils rentrent dans un autre véhicule, puis ça, ça cause énormément de dommages.
Est-ce que, selon toi, on devrait... augmenter la punition du cellulaire au volant? Parce qu'il y a des auditeurs tantôt, qui, quand on en a parlé, qui m'écrivaient, puis ils disaient « Oh non, c'est peut-être pas ça la cause. Il y a des États américains, entre autres, où le cellulaire est permis puis il n'y a pas plus d'accidents. » Moi, je pense que c'est un fléau. Tu sais, je le racontais tantôt, Eric, en moto encore, j'arrive à une lumière, le jeune qui est à côté de moi est en train d'écouter une série sur son téléphone dans le char.
Ouais.
C'est épouvantable.
Écoute, augmenter plus les réglementations, ça va-tu changer quelque chose? Tu sais, le Québec a... depuis des années, je me souviens, depuis que je suis petit cul, ils mettent des annonces, il y a eu la sensibilisation sur l'alcool au volant. Ça semble, ça a été amélioré, j'ai pas les statistiques devant moi, mais après ça, bon, les cellulaires, c'est une autre cause. Après ça, on voit clairement, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici aussi en tant qu'immigrants au pays, qui n'ont pas les notions de l'hiver, ils n'ont pas les notions de tu sais, je veux dire, on s'en vient de plus en plus, c'est pas des hivers avec nécessairement de la neige, où c'est quand même facile à conduire, c'est de la slotch, c'est de la glace, c'est...
du verglas, des fois,
du verglas, donc on voit, c'est quand même pas facile de conduire l'hiver, donc on voit de plus en plus de gens qui ont peut-être de la difficulté à s'adapter à ce nouveau climat-là, fait que je pense qu'il va y avoir, comme je dis, une analyse au niveau du ministère de dire ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, puis de peut-être justement arriver avec des gestes qui vont faire en sorte que ben, ça va être plus sécuritaire. Je pense que les camions sont un des gros fléaux au Québec. Tu sais, je suis descendu la semaine passée à Québec, puis là, je redescends aujourd'hui. Les camions qui roulent à gauche, qui causent l'impatience, qui causent du trafic. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup avec l'impatience des gens, de ce qu'on voit, l'accident qu'il y a eu, justement, c'est un niveau d'impatience que la personne voulait tourner, l'autre a fait un dépassement illégal. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi où les gens sont impatients, puis il va avoir des mesures qui vont peut-être essayer de trouver des solutions à ça, là, mais c'est pas évident là, de gérer un comportement sur la route.
Surtout que les gars, les distractions ratissent beaucoup plus large que le cellulaire. Là, dans un monde où les voitures deviennent de plus en plus avec de l'infodivertissement à bord des écrans, c'est la faute de quoi? Pas nécessairement le cellulaire. Puis heureusement qu'on a des études qui nous disent que justement l'impatience puis le fait de conduire plus vite, ben ça vous fait pas économiser de temps nécessairement, puis en plus ça vous coûte plus cher d'essence. J'ai vu ça dans le soleil ce matin, il fallait que je vous en parle parce qu'on le savait pas. On savait pas. Rouler plus vite fait brûler plus de gaz, ben coûte plus cher, puis c'est quoi? Ça se fait pas sauver du temps là, d'être trop pressé.
Mais tu sais, on va devoir, de toute façon, il y a de plus en plus de gens, il va y avoir de plus en plus de gens sur la route.
Oui.
Il va avoir, je pense qu'il y a, comme je dis, en Italie, de ce que j'ai vu, c'est un peu pallier à peut-être ces inattentions-là, dans le sens que s'il y a des accidents, ils sont dans une seule et unique direction, donc les gens roulent puis ils peuvent pas dévier de route, ils peuvent pas faire de face à face. Donc, est-ce que c'est dispendieux? Parce qu'il faut que tu fasses ça sur à peu près, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est 80 000 km de route. Donc, c'est peut-être pas toutes les routes qui sont considérées dangereuses. Il y a peut-être une certaine limite de vitesse. À un moment donné, il va falloir adapter ça. On le voit surtout dans les routes, souvent de campagne, les routes secondaires, là, les 137, les 300... Non. Donc, c'est des routes provinciales, mais secondaires. C'est ceux-là qui sont les plus dangereuses, je crois.
Avec un état de chaussée médiocre pour me promener, comme je disais, à moto, c'est dangereux. Là. Des tours, des roulières, c'est malade.
Ici, sur la 15, là, ils viennent de la refaire. Okay. C'est flambant neuf. Ils ont élargi ça. C'est rendu à 5 voies à certains endroits. Tout ça. Puis, il y a un endroit sur l'autoroute, quand tu t'en viens, puis tu roules à 100, 110, mais je peux pas m'imaginer sur une moto. Il y a une grosse bosse. C'est comme si tout s'était soulevé. Ça n'a pas été fait comme ça. Là. C'est comme si il y a eu quelque chose qui a gelé en dessous, puis ça a soulevé, puis ça a resté comme pris comme ça. Puis là, tu vois, tout le monde s'en vient, mais ceux qui ne le savent pas ne ralentissent pas.
C'est hyper dangereux.
Puis c'est pas une bosse. C'est une bosse, un gros ballon qui fait que tu peux quasiment. Si tu arrives à 120, 100. On s'entend, puis il y en a des gens qui roulent à vitesse.
L'été passé, ici, on fait l'asphalte du côté du pont Pierre-Laporte en direction sud, puis il y avait ce genre de vallon-là juste à la sortie du pont. J'ai failli être éjecté de la moto. Là, ils l'ont refait, mais c'est extrêmement dangereux. On ne voit pas ça venir d'avance. C'est vraiment dangereux.
Non, non, exactement. Je pense que, ben, tu sais, on n'est pas au bout de nos peines, ah on non. va se le dire, avec les routes. Là. Ça va être un sujet pour les 20-30 prochaines années encore.
Ben, c'est un excellent sujet, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de finalité à ça. Il n'y a pas de solution possible. La MTQ, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, selon leur nouveau nom, qui est super important de spécifier à chaque fois, sortait un chiffre l'année dernière sur la valeur de reconstruction du réseau québécois. Combien ça coûterait si on avait à refaire l'ensemble des routes problématiques?
On est dans tout, on recommence.
Le 163,4 millions. Mettons, Éric, là, je te pose la question, puis par exemple, là, je te dis ça de même, je te demande de mettre ton chapeau imaginaire de politicien qui pourrait avoir des liens avec un parti à 9 999 $. Qu'est-ce que tu ferais, mettons, toi, en tant que ministre des Transports pour régler ça?
Ben écoute, ça prend un plan, mais tu sais, si les chiffres, là, tu me les annonces parce que je les connais pas, mais si ça à 163 milliards, je pense qu'on est capable de faire quelque chose sur un plan sur 20 ans qu'on serait capable d'établir. Puis ça fait beaucoup de saclics, ça, on pourrait dire comme ça.
Beaucoup.
Donc,
ça fait pas mal, ouais.
Mais, beaucoup de Nordvolt, puis beaucoup de...
Oui, beaucoup de Nordvolt, beaucoup de... Je pense qu'on serait capable sur un plan logique de 20 ans, 30 ans, voire. Mais c'est surtout la qualité qu'on doit commencer à revoir de comment qu'on fait nos travaux. Parce que Absolument. Je peux pas concevoir que depuis... des années et des années. Tu sais, de plus en plus, les reportages commencent à passer. Entre 62 et 68, on a fait des grands projets incroyables. Le métro, je crois, les barrages hydroélectriques. Oui. On a fait beaucoup de travaux de qualité qui ont perduré dans le temps. Mm-hmm. Puis qui, aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'années, 40 ans, voire plus, ont besoin d'entretien, c'est normal. Mais je ne peux pas concevoir qu'il y a des régions comme on va à Toronto, on va à Boston, par exemple. Ouais. L'excuse est toujours la même. C'est mais c'est pas la même température. Ils ont pas...
ben,
c'est
ils ont drôle. Aussi.
Je vais à Boston en plein hiver. Ils ont un hiver, ils ont du gel, ils ont des froids, ils ont des tempêtes de neige. Les routes sont immaculées.
Mais je comprends pas qu'on se contente au niveau du ministère et ou des appels d'offres du médiocre. Tu sais, on refait une route. Il passe un hiver, le printemps d'après, c'est à recommencer.
Un hiver? Écoute, j'ai vu... Je me souviens dans les années qui ont ouvert l'autoroute 50, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être quoi, 10 ans, 15 ans que l'autoroute 50 a été faite. Je voyageais beaucoup à Gatineau dans ce temps-là, mais on a de la famille là-bas. Puis ma conjointe, elle me dit « Hey, ouvre l'autoroute 50 demain. » Fait que moi, il fallait que je retourne en ville. Je pense à 5 heures du matin, je suis sur l'autoroute 50. Puis dans ces années-là, j'avais un véhicule sport, pire route que j'ai jamais vue, flambant neuve. Là. C'est comme si je suis le premier sur la route, il n'y a pas un chat, 5 heures du matin, elle vient d'être ouverte. Des vallons et des vallons, ah, des inégalités, c'est flambant neuve. Alors que quand tu roules dans la région de Boston, ça me frappe toujours, tu peux rouler pendant des heures, puis il n'y a aucun vallon. Ton véhicule, il roule droit, comme si c'était au laser, au millimètre près. C'est incroyable. Fait que déjà là, je pense qu'on va avoir quelque chose à revoir dans nos procédures. On voit là, présentement, il y a la grève des ingénieurs
du gouvernement, oui.
1800 ingénieurs, puis on n'arrive pas à avoir des routes qui font du sens. Puis on dépasse les coûts à chaque fois. À quoi qu'ils servent?
Ah, il y a des procédures aussi, des fois, qui coûtent une fortune. Je te donne un exemple. Je parlais hier avec quelqu'un qui travaille sur un chantier qui est gouvernemental, là, un chantier où il faut qu'il fasse des routes carrément de zéro. Et là, ils finalisent les routes en ce moment. Ils ne sont pas nécessairement asphaltées. Mais une fois que les routes sont finalisées, ils recreusent pour passer à la tuyauterie. Ah oui. Après ça, ils vont repaver. Fait que on travaille comme des cabochons, excuse-moi le terme, mais c'est ça. Là.
Écoute, si vous voulez rire, là, venez voir l'autoroute 15 Nord, là, puis vous allez voir, ça c'est la nouvelle création du gouvernement. Là. Écoute, c'est atroce. Ils ont créé une voie, naturellement, une voie prioritaire de covoiturage ou d'autobus.
Ouais, ouais, ouais.
Elle passe à côté d'un pilier de béton, donc il y a un moment donné où est-ce qu'elle va se séparer parce que le pilier il est en plein milieu où est-ce qu'eux voulaient passer. Donc, leur logique, ça a été on va envoyer la voie à gauche, puis tout le reste vont passer à droite. Donc, le pilier devient un danger. Ils ont mis plein de contournements, de protection de béton autour de ça. Puis après ça, au final, ben là, tu peux pas changer de voie. Fait qu'il y a des gens qui s'en vont dans ce voie-là, sont deux, ils roulent à 100. Puis là, la voie de qui est juste à droite devient la nouvelle gauche, si on veut.
OK.
Puis les gens roulent sur celle-là en se disant, ben là, moi, je suis pas à gauche. Fait qu'il y a aucune éducation non plus qui est faite. Ouais. Fait que c'est un désastre total. C'est laid, c'est mal fait. Ça n'a aucun bon sens. Si vous avez la chance, venez voir ça. Écoute, il faut le voir pour le croire, mais la conception est... Je peux pas concevoir que c'est un ingénieur qui a fait ça.
Ben, je veux pas qu'on tombe nécessairement dans le fatalisme, Eric, mais Est-ce que le Québec va devenir un grand mini-pot? Dans le sens où, quand on regarde la situation financière et économique du Québec, surtout quand on regarde aussi les documents qui ont été dévoilés l'année dernière par le ministère des Transports, où, à part le coût d'entretien puis ce que ça coûterait reconstruire le réseau routier, on apprenait aussi que depuis 2018, le coût par kilomètre a augmenté de 64 %. Fait que plus on attend, moins on a les moyens de rénover, de refaire notre réseau routier. Fait que va-t-il juste falloir se rendre à l'évidence que, ben, c'est ça, on va rouler sur un grand terrain de mini-pot?
Oui, mais écoute, puis là, on parle des routes, on pourrait parler de plein d'autres situations. On pourrait parler des hôpitaux qui sont, sont en train écoles. Des infrastructures, les écoles. Mm-hmm. Écoute, je le répète souvent, le mur s'en vient, il s'accélère, puis les gens, ils le voient. Là, on s'est comme réveillé, on a dit, hey, ça n'a plus d'allure, il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à arriver. Ça n'ira pas en s'améliorant. Là, les feux de forêt. Il va y avoir de plus en plus de causes qui causent à effet, si on peut dire, sur les changements climatiques. Ils vont être là. Je ne dis pas qu'on a un dôme. Je suis le premier à dire que c'est planétaire. Ce n'est pas juste au Québec. Il va falloir se réveiller un moment quelque part. Mais ça reste toujours la même chose parce qu'on parlait de partis politiques. Il y a un esprit de gestion qui doit être amélioré, d'arrêter de dépenser comme si ce dollar-là allait toujours revenir.
Fait que tu vas te fonder ton parti, finalement?
On annonce ça mercredi. Donc,
OK, fait qu'il y a du concret là-dedans. C'était pas une annonce lancée en
l'air. Il y a du concret. On va être là en octobre. On va être là en octobre. Ça, je peux vous le garantir.
C'est-tu vrai, ça?
Oui, c'est vraiment vrai. Là, énormément de support. C'est surprenant à voir, là, parce que là, vous m'en parlez. Oui. Je vais en dire un peu, mais c'est surprenant de voir à quel point, quand on se lève, je veux dire, là, présentement, on est trois à se lever. On est trois grandes gueules, on pourrait dire. Puis on est trois qui utilisent beaucoup et énormément les médias sociaux pour faire jaser. Puis quand on va être 10, puis quand on va être 20, puis quand on va être 30 avec la même capacité, là, je pense qu'on va commencer à réveiller les gens. Puis à faire en sorte. Puis la direction qu'on s'en va, nous, c'est de laisser et de redonner le pouvoir au peuple. Puis c'est un peu, vous irez voir, un peu comme la Suisse fonctionne. Donc les décisions sont prises par le peuple et non pas par le gouvernement. Le gouvernement est un exécutant, non pas celui qui prend la décision, celui qui dit, hey, on va investir dans sa clique, exemple. Donc la décision revient constamment au peuple de décider ce qui doit être fait avec les fonds, puis où est-ce que ça doit être investi et de quelle façon que ça doit être investi. Fait qu'on s'en vient avec un plan, ça va être prêt pour octobre. Donc,
avec un parti politique.
Assurément, assurément, ça va brasser les choses. Je peux pas dire qu'on va arriver au pouvoir puis qu'on va être capable de partir de zéro puis faire une montée fulgurante, mais je peux garantir que ça va donner des sueurs froides à certaines personnes.
Ça va s'appeler comment, ce parti-là, Éric?
On va tout dévoiler mercredi. Okay. Tout dévoiler mercredi. Une chose est sûre, c'est qu'on est capable de battre Québec solidaire. Ça, c'est pas un problème. Donc,
OK, puis question comme ça, allez-vous avoir... peut-être que tu vas me dire, on va annoncer ça mercredi, puis avec raison, mais est-ce que vous allez être plus que trois? Va-t-il avoir une députation peu plus élevée?
Non, c'est déjà... tout est en... Pour ça, je veux pas en dire plus. Tout est en place.
Okay.
Tout est prêt. Il y a déjà 4000 membres et tout est là. Donc,
4000 membres?
OK, on va suivre ça mercredi.
Puis là, le plus drôle, c'est qu'on s'en va à Saint-Tite. C'est confirmé. J'ai parlé avec Jean hier. On va être là. Il y a 700 000 personnes qui vont à Saint-Tite. Puis on va les donner les cartes de membres. On va rencontrer les gens. On va jaser avec eux autres. Puis nous, on n'a pas besoin de charger. C'est ça la beauté de tout ça. C'est que nous, on a été des entrepreneurs qui ont réussi. Puis on n'a pas besoin de charger rien. Moi, j'en veux pas de salaire. Je veux même pas être député. Je veux pas être premier ministre. Je veux être impliqué. Puis quand on va trouver des gens comme nous qui vont vouloir s'impliquer à même titre puis qui n'ont pas besoin de la paye ou de la pension à vie de député, ça va changer la game énormément au gouvernement du Québec. Puis je pense que c'est là que les gens doivent se réveiller parce que les gens qui vont là, ils n'ont aucune intention d'aider le peuple. Leur seule et unique intention, c'est d'avoir une pension à vie, d'avoir leur salaire, d'avoir leurs conditions, de s'asseoir sur une chaise et de prendre des décisions une fois de temps en temps sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas.
Il y en a plein, Éric, qui arrivent au Parlement pour la première fois avec beaucoup, beaucoup de bonnes intentions. Puis on dirait que, je sais pas si le sofa, le divan est très, très, très confortable, mais une fois assis dedans, ils vont tout faire pour pas le perdre.
Ah oui, mais ils sont rendus à quoi? Un député, ça gagne quoi? 180 000 par année, 150 000 plus
c'est pas le chiffre sous les yeux, mais on est pas mal dans ce coin-là.
On est pas mal dans ce coin-là. Fait qu'on s'entend que c'est pratiquement et même plus que le triple du salaire moyen d'un. d'un citoyen, puis qu'est-ce qu'ils font de plus, qu'est-ce qu'ils amènent de plus. Puis les gens vont me faire croire, ils disent, ah, mais non, mais c'est parce que je veux m'impliquer, c'est drôle. J'ai jamais vu quelqu'un lâcher son travail de 300, 400 000, 500 000 pour s'en aller député. C'est tout le temps quelqu'un qui veut améliorer sa propre situation. Donc, c'est pas la situation du Québec qui veut l'améliorer, c'est leur situation. Ils pensent à eux.
Ouais, les convictions prennent le bord assez vite.
Oui.
Quand tu dis que tu as 4 000 membres déjà, Éric, c'est-tu parce que vous avez repris les fondements d'une formation déjà existante?
Oui, il y a déjà, ben, on n'a pas repris. C'est pour ça que je dis là vous me posez une question, vous essayez de savoir. On veut garder le suspense jusqu'à mercredi. C'est pour ça que je descends à Québec aussi, fait que je vais être là mercredi. Mais on est. Parce que oui, la complexité de partir un nouveau parti, il y a toutes sortes de légalités, il y a toutes sortes de procédures, puis on n'aurait pas été prêts pour octobre, alors que là, on va l'être.
Il va falloir qu'on se reparle jeudi, Éric, à ce moment-là. Là.
On peut se reparler jeudi, assurément, puis l'annonce va être faite, puis on va être capable de puis on peut faire vraiment toutes nos positions, puis, parce que tout ça est déjà en place, parce qu'on sait parler, les gens impliqués, puis on veut avoir la même vision, puis on est tous d'accord sur une chose, c'est que, un, ça va être par des gens du peuple, c'est-à-dire, moi, je suis un gars bien normal, là, nonobstant de l'argent que j'ai gagné dans ma vie, je suis encore le gars qui était pompier, je suis encore celui gars qui met ses bottes de travail, puis... Le parti va être fondé avec des gens comme ça, puis des gens qui ont à cœur justement d'avoir un Québec meilleur. Puis moi, dans mon cas, c'est pas l'argent qui m'attire. Moi, c'est de voir mes enfants prospérer, puis de s'assurer qu'ils ont un avenir, puis de s'assurer que justement, ils vont avoir quelque chose pour eux dans les années qui vont s'en venir, puis que ce sera pas des loyers à pu finir, puis de juste lancer l'argent par les fenêtres et de voir le Québec en décrépitude, si on veut.
Juste avant qu'on se laisse, Éric, tu voulais nous parler aussi des... Parce qu'au Québec, là, si tu es un dirigeant d'entreprise puis que tu fais de l'argent, tu pars avec une prise. Puis si en plus, tu parles juste en anglais, ah ben là, c'est fini.
J'ai été surpris ce matin de lire ça parce que, moi, j'ai eu des démêlés avec l'Office québécois de la langue française, mais je ne savais pas, parce que ça semble être un exemple. Le ministre Robert, j'encourage les gens à faire une plainte s'il croit que le PDG d'une entreprise privée, on s'entend, là, ce n'est pas une entreprise publique, s'il croit qu'une entreprise privée, le PDG ne parle uniquement en anglais, de faire une plainte à l'Office et que l'Office va débarquer pour voir si le PDG parle réellement français, ça ne fait aucun
c'est
bon
totalement
sens.
Ridicule.
Combien d'entreprises à Montréal que le PDG parle juste anglais parce que c'est un anglais, la personne, qu'il n'y a rien de mal à être anglais. Je veux dire,
c'est une question de compétence.
Ce qui est important,
une question,
c'est la langue de service plus que la nationalité de la personne qui dirige.
Ben oui, puis s'il y a des directives à être données aux gens plus bas, puis que le PDG va avoir une secrétaire, va avoir un vice-président, peu importe. Lui, c'est la gestion de l'entreprise, s'assurer que tout roule puis que tout est enligné. Puis ce qui me surprend là-dedans, c'est que ça pourrait toucher une petite entreprise de. On dit PDG parce que ça semble être un gros mot, là, mais on.
Juste le propriétaire d'une entreprise
de 4-5 employés. Mm-hmm. C'est-à-dire que si lui parle juste anglais, ils vont dire quoi? Ah non, toi, t'as pas le droit d'avoir d'entreprise, t'as pas le droit d'opérer ici au Québec.
Mais
puis après ça, on s'attend à ce que les gens viennent investir ici puis qu'ils nous choisissent, comme dire, au lieu de l'Ontario, au lieu de l'Alberta.
Mais la semaine passée, là, je faisais une montée de lait concernant la langue au Québec. Je trouve que on
surprotège.
On surprotège pourquoi, en fait? Je veux dire, on est capable de parler les deux langues, puis notre francophone, notre façon de parler québécois ne s'effacera pas. Là.
Mais
que l'Office québécois de la langue française aille se mêler de la langue maternelle d'un directeur d'entreprise... Là, c'est de l'enculage de mouche.
Je sais même plus où je vais aller faire mes ongles. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, exactement.
Ah oui.
Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'ils prônent l'immigration, les gens qui viennent ici. Je suis 100% d'accord avec ça parce qu'on en a besoin. Puis au final, on dit, ben toi, t'as pas le droit d'avoir d'entreprise parce que tu sembles pas maîtriser le français. Ça fait aucun sens, ça. Je veux dire, tu sais, puis... Si on veut un affichage en français sur un produit, même encore là, des fois, je l'ai vécu personnellement, où ce que l'Office, elle disait, ben, ce produit-là, d'une compagnie américaine ou d'une compagnie canadienne, ben, il est juste en anglais. Ah, ben, t'as pas le droit de l'avoir, faut que tu le retires. Qu'est-ce que tu penses que les gens font? Ils l'achètent sur Amazon.
Ben oui, c'est
en
ça.
En Ontario. Puis il est envoyé ici. Tu n'arrêteras pas le client qui veut un produit spécifique parce qu'il est uniquement en anglais. Les gens, ils font leur propre choix. Puis j'ai l'impression des fois que l'Office essaie de traiter tout le monde en bébé. Puis on va essayer de gérer, je ne veux pas dire le mot, mais de mouche. C'est exactement ça. Puis à un moment donné, il va falloir comme focusser sur ce qui est réellement important pour l'Office puis pour le français. Puis le reste, je veux dire, laisser les gens faire leurs affaires puis arrêter de le mettre dans un bâton d'un roux.
Exactement. À force de trop vouloir obliger puis de surprotéger, le monde s'écœure. Ben voyons, je sais c'est quoi que ça veut dire on-off, puis broye, puis bake.
Puis combien de compagnies ont fermé? Voyons, la compagnie qui vendait des guitares à Montréal, là, j'oublie le nom.
C'est musique.
Oui, bien, ça a été une des causes, parce que là, ils n'en ont pas reparlé, mais ils ont fermé. Puis oui, naturellement, la COVID, il y a eu toutes sortes de choses qui n'ont pas aidé. Mais eux avaient sorti, là, 4-5 ans dans les journaux en disant, hey, ils nous demandent de changer les guitares, parce que justement, il y a un on-off ou il y a quelque chose comme ça.
Les amplis, les cordes de guitare, Eric, c'est juste en anglais, là.
Ah oui. Mais c'est le manufacturier, il ne fera, fera pas une modification juste pour le Québec, parce que justement, il n'y a aucun avantage à eux de faire ça.
C'est un petit pourcentage du marché.
Puis, pour avoir parlé avec beaucoup de manufacturiers, souvent je fais de l'importation, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit n'importe où dans le monde. Les manufacturiers, quand ils entendent le mot Québec, ils font comme « Ah, ça m'intéresse pas ». Parce que, tu sais, au final, ça va me coûter plus cher m'adapter. Puis pourtant, c'est une loi canadienne. C'est sûr que les gens, des fois, ils semblent oublier, mais le bilinguisme, c'est une loi canadienne. Ouais. Mais le reste du Canada ne font pas de plainte. Parce que je veux dire, en Colombie-Britannique, ils ne feront pas une plainte si ce n'est pas écrit en français. T'es à moins de trouver un petit Québécois qui vient d'arriver à quelque part.
On est vraiment, têtu au niveau de la langue. Éric, c'est tout le temps qu'on a, il faut qu'on se laisse, mais assurément, on se reparle jeudi. Pour jeudi et pour l'annonce de ce parti politique-là. On a bien hâte de voir des nouvelles mercredi de votre annonce officielle.
Excellent. Bonne semaine à vous
autres. Merci, Éric. Bye.
Bye.
Salut. Éric Gravel, chroniqueur dans Montréal Live, qui nous a lancé...
Un breaking news. Rien de
moins. Il y aura un parti politique d'annoncer mercredi. On va lui reparler jeudi. On va arrimer tout ça. Il faut faire une pause. Au retour, les contribuables, on en donne de l'argent, nous autres.
Hein? J'en reçois pas.
Non?
J'en reçois pas tant que ça.
Ben, on va te faire à croire durant la campagne qu'on va te redonner ton argent,
oui,
Camille.
Oui, on va me redonner mon argent imposé.
T'as hôpital gratis, là. Arrête de te plaindre.
Ouais, c'est gratuit, ça, hôpital.
Ouais, c'est vrai. On me l'a donné. C'est tellement gentil. Avoir l'état des lieux, là, c'est vraiment un beau cadeau.
Ouais. Moi, je veux pas qu'il me redonne mon argent, je veux juste qu'il me la laisse dans mes poches. Redonne-moi mon argent.
Mm-mm.
On revient après ceci.
T'as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.